Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes président de Mon Pensée Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, association française de la gestion financière. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champs Actuels. Et bonjour Erwan Tison.
Bonjour Nicolas.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur d'Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Il y a deux écoles, Éric. Il y a l'école qui dit non, on avait promis une politique contracyclique, c'est pas au moment où les nuages sont là qu'il faut serrer la vis, donc non. Et puis il y a ceux qui vont vous dire, ah oui, mais même si le taux de chômage remonte, on a un marché du travail qui est encore en tension, on a des problèmes de recrutement qui sont toujours là, donc on a des éléments qui argumentent en faveur d'une réforme de l'assurance chômage.
Nicolas, pardon, je voulais...
Quoi, Guillaume, quoi ?
C'était dit que j'avais avant qu'Éric ça magnifiquement...
Je ne savais pas que vous vouliez prendre la parole premier, Guillaume. Oui. Mais allez-y. Allez-y.
Je pense que avant qu'on traite exactement le sujet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle social français, il ne résiste pas aux guerres. Il ne résiste pas à la guerre contre le Covid. Il ne résiste pas à la guerre économique, quand on se dit de la désindustrialisation depuis 15 ans. Et troisièmement, il ne résiste pas à une guerre, même à basse intensité. On le voit sur le sujet des obus. Donc tout ça... Tous ces sujets sont en train d'arriver les uns après les autres en rafale et le chômage en est un. Et sur le chômage, je dirais juste un mot, c'est que est-ce que l'assurance chômage, c'est une assurance individuelle? Maintenant, elle est payée théoriquement par l'employeur. Sauf qu'on sait bien que la cotisation employeur, c'est du salaire qu'on ne vous donne pas. Donc c'est 4%. C'est 4% à peu près, plus un peu sur l'ASS. Alors, si c'est une cotisation
allocation
individuelle, ça veut
de
dire...
de solidarité qui doit disparaître.
Vous avez le droit, ça veut dire que si vous avez 4% et que vous travaillez 40 ans, ben vous avez le droit, entre guillemets, à un an et demi de chômage que vous avez payé. Ou alors c'est une mutuelle, c'est-à-dire que vous dites, on cotise de façon transversale, et que ça veut dire qu'on peut payer 4% des salariés au chômage. Mais il n'est pas clair de savoir si c'est une assurance. Avant, on payait, le salarié payait sa cotisation directement, maintenant c'est il la paye, mais indirectement via la cotisation employeur. Donc est-ce que c'est une assurance individuelle? Est-ce que c'est une mutuelle? Et qui décide de l'affectation de soit l'assurance individuelle, soit de la mutuelle.
Voilà. Pour l'instant, ça a toujours un statut assurantiel. Pour l'instant, c'est toujours dans les mains des...
Assurantiel, à ce moment-là, c'est à vous.
Ben oui, mais pour l'instant, c'est toujours dans les mains des partenaires sociaux. On posera la question tout à l'heure de la TVA sociale, justement. Donc oui, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'a dit Guillaume.
Oui, c'est vrai que Guillaume a élargi le sujet. D'abord, est-ce que le modèle social résiste aux guerres? J'inverserai. C'est grâce au modèle social qu'on résiste aux guerres. C'est-à-dire que globalement, l'activité ne chute pas trop aussi parce qu'il y a un modèle social qui permet de protéger. La question ensuite, mais ça, il suffit d'ouvrir un manuel de macroéconomie de première année, il y a marqué, il y a toujours un chapitre, guerre et déficit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une guerre, il y a forcément des déficits qui apparaissent parce que la guerre, ça coûte cher et puis parce qu'on a moins d'activité. Qui doit payer, d'accord, les moments de guerre? Est-ce qu'on doit demander aux personnes qui subissent la guerre, qui vivent la guerre, en plus de payer le coût de la guerre au sens large, ou est-ce qu'on doit dire on le fait pour les générations futures et donc on les lègue sous forme de déficit et de dette? Donc, vous voyez, donc en gros, le modèle social n'y est pour rien.
Au contraire, le modèle 2.
Ben oui, mais donc le modèle social, c'est pas le modèle social qui, au contraire, le modèle social est là pour protéger, d'accord. Quand il y a des périodes, c'est des coussins contracycliques, on appelle ça, et donc ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est après qui doit le payer. Est-ce qu'on augmente les impôts ou est-ce que on les laisse un peu en déficit ou en dette ou on baisse la dépense publique, d'accord. Ok, alors maintenant sur l'assurance chômage,
l'opportunité d'agir.
L'opportunité. Non, mais ça, je pense que c'est clair que si c'est efficace, d'accord, de baisser la durée d'indemnisation pour envoyer un signal pour qu'il y ait un retour, il est certain que c'est beaucoup moins efficace quand on est en bas de cycle. Ça, je veux dire, bon, on peut tordre dans tous les sens. Alors, on sait que c'est moins efficace.
Je vous réponds d'après ce que j'ai en tête, sur les éléments empiriques d'observation, oui, réduire la durée d'indemnisation, c'est le paramètre le plus efficace pour inciter à.
D'accord.
Alors, semble-t-il.
Non, mais peut-être que c'est le plus efficace, mais en tout cas, il est moins efficace quand on est en bas de cycle que quand on est en haut de cycle. C'est-à-dire que quand, là, aujourd'hui, les entreprises disent je ne recrute plus, en net, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous voyez les perspectives d'emploi issues de l'INSEE, on est passé de 110 à 100, c'est-à-dire que les entreprises disent bon, ben, là, on est dans un ralentissement, et malheureusement, ça va durer. Si vous croyez les perspectives de la Banque de France ou ceux de l'OSCE, le chômage va augmenter, on va détruire des emplois en 2024. Vous voyez, c'est pas quand vous détruisez des emplois.
En 2024, vous êtes sur l'idée que c'est la destruction nette.
Ah oui, enfin nous en tout cas, on va ressortir.
On était encore en création nette depuis fin 2023, début 2024.
Oui, vous avez raison. Et là, bah, on l'avait déjà sorti lors des dernières prévisions, qu'on allait détruire des emplois. Et là, on va le confirmer, on va vous donner le chiffre le 10 avril avec notre prévision. Mais vous voyez, globalement, on est dans un contexte où il y a un ralentissement économique. Et la Banque de France, comme nous, d'accord, on indique qu'il y aura des gains de productivité qui vont accélérer. D'accord. Donc, quand vous avez des gains de productivité qui accélèrent au moment d'un ralentissement, il y a des destructions. D'accord.
Les gains de productivité, c'est effectivement pas bon pour la création d'emplois.
Non, ça, à court terme, c'est pas bon. Non, à court terme, c'est bon. C'est bon à long terme. Donc, on va être dans ce contexte-là. C'est sûr que c'est beaucoup moins efficace de réduire quand vous êtes dans un marché du travail. Ensuite, deuxième point. Est-ce que c'est complètement efficace de cette manière-là? D'accord. Alors, j'essaie de m'expliquer. L'idée derrière laquelle il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi, d'accord, on a essayé de le tester quelque part. Ce qui a été montré, c'est que ce n'est pas tous les chômeurs qui sont comme ça, ce sont plutôt des chômeurs qui font des allers-retours au chômage. D'accord, travail, chômage. Donc, c'est plutôt des contrats courts. Et il y a la responsabilité et de l'employeur et du salarié. C'est-à-dire que l'employeur utilise aussi souvent ça. Et c'est pour ça que le gouvernement y a répondu déjà avec la réforme de 2019, avec le bonus-malus.
Qui a produit des résultats.
Mais le bonus-malus d'un côté et le recalcul du salaire journalier de référence, d'accord, pour désinciter le salarié chômeur à le faire et pour désinciter l'employeur de le faire. C'est ça la vraie réforme, pour lutter.
Celle-là, c'était la plus technique, mais
c'est
évidemment...
Mais c'est celle-ci qui joue. Oui.
Mais en réalité, c'est un impôt.
Je finis. Juste, c'est pas celui qui est au chômage depuis 18 mois. Mais vous voyez, quelqu'un qui a 58 ans, qui est au chômage depuis 18 mois, vous pensez, très sincèrement, qu'en réduisant ses droits, il va retourner sur le marché du travail? Ça n'a aucun sens.
C'est votre position.
C'est juste un sens pour faire des économies. Mais ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'économistes pour défendre ce type de politique en disant si ça va faire retourner au marché du travail. Non, c'est le bonus-malus. Si ça ne suffit pas, et ça c'est ma dernière critique, d'accord ? C'est-à-dire que globalement, ils ont fait en gros 5 grandes mesures sur l'assurance chômage. Il faudrait quand même avoir un bilan de ces 5 mesures avant d'en proposer une 6e mesure. Et là, moi je trouve que c'était intéressant d'aller vers le bonus-malus et le nouveau calcul du salaire journalier de référence. Essayons de voir, est-ce que ça a marché? Est-ce que du coup, il y a moins d'aller-retour sur le chômage?
Alors, bonus-malus, j'ai vu des résultats a priori positifs.
Ok, mais...
Je
pense que c'est pas très significatif, puisque c'est fait que sur certains secteurs, on devrait élargir à tous les secteurs, et donc continuons sur cette voie-là. Mais arrêtons de penser que en réduisant l'indemnisation des seniors, d'accord, en le réduisant, ça va faire retourner à l'emploi ces personnes-là.
On va voir ce qui nous sera annoncé aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que ça porte sur les durées d'indemnisation. Votre position par rapport à ça, Erwan Tizon, et puis je ferai réagir Guillaume.
La DARES réalise régulièrement des études très sérieuses et très documentées sur le chômage volontaire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont au chômage parce qu'ils l'ont souhaité. On oscille, selon les années, entre 6 et 7,2%.
Donc, pour les chiffres que j'ai en tête.
Il y a 93% des demandeurs d'emploi qui le sont de manière involontaire. Pourquoi est-ce qu'ils le sont? Quand on regarde la structure du marché du chômage français, et d'ailleurs c'est peut-être un des marchés les plus hétérogènes qui puisse exister en Europe, on a une forte prédomination de personnes qui sont au chômage parce qu'ils ne sont pas ou peu qualifiés. Le taux de chômage des personnes qui ont un niveau de qualification infra-bac est environ de 13 à 15% selon les dénominations qu'on prend. Pour les personnes qui sont diplômées de bac plus 5, on oscille entre 2,8 et 4,4% selon les années.
Oui, c'est du plein emploi. Oui.
Donc, le problème qu'on a, c'est un problème de qualification. Est-ce que le fait de diminuer de 1 mois, 2 mois, 10%, 15% l'allocation ou la durée pour ces personnes-là, non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui va marcher? C'est la formation. Ça peut paraître tarte à la crème, mais on n'a pas trouvé mieux depuis le Condorcet en 1792 pour former les actifs que de les mettre justement en formation continue. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait imaginer, nous c'est une proposition qu'on porte depuis plus de 6 ans, de se dire on fusionne assurance chômage et formation professionnelle. C'est-à-dire que on observe, et ça c'est les travaux de Stéphane Carcillo, une dégradation des compétences au bout du entre le 3e et le 6e mois d'inactivité. C'est à partir de là où se joue votre
l'employabilité au-delà de 6 mois, ça se complique.
Voilà, c'est à partir de là où se joue votre inemployabilité. Pendant les 3 premiers mois, en gros, vous perdez rien, et à partir c'est ce sas-là où vous commencez du coup à devenir moins en moins employable. On pourrait imaginer que dans ce sas-là, on est donc les 3 premiers mois, vous êtes indemnisé, peut-être même à hauteur de 80-90% de votre dernier salaire pour éviter la perte de déclassement, on va dire, au niveau de votre pouvoir d'achat. Et après, vous n'êtes plus pris en charge par Pôle emploi ou par France Travail, mais par du coup la formation professionnelle, où vous êtes impliqué, soit vous choisissez votre propre parcours de formation avec une orientation dans la carrière de votre choix, soit on vous incite fortement à suivre un parcours de formation en lien avec les besoins et l'adéquation nécessaire sur votre territoire. Et là, on pourrait avoir du coup non seulement une rémunération de la formation qui serait plus importante, mais aussi on réaliserait des économies d'échelle qui nous permettraient d'avoir des formations qui soient plus qualifiantes et de meilleure qualité. Ça permettrait quoi? Ça permettrait d'éviter, parce que aujourd'hui l'hypocrisie, c'est qu'on va vous laisser 14, 15, 16 mois chez vous au chômage. On sait très bien que de toute façon vous n'êtes plus employable derrière, et on se dit on fait du traitement social du chômage, la personne ne va rien dire. Après, le problème c'est que si vous basculez dans le RSA, je rappelle l'étude qui a été publiée encore une fois par la DARES, sur les 10 dernières années, il y a quand même 30% des allocataires du RSA qui le sont depuis plus de 10 ans. Donc une fois que vous basculez dans cette inactivité globale, vous n'en ressortez plus, et là vous basculez dans la précarité la plus totale. Donc fusionnons formation professionnelle et assurance chômage, faisons un traitement préventif du chômage via les compétences et via la formation, et là, à mon avis, on pourrait avoir des meilleurs résultats en appariement sur tous les territoires, et ça permettrait justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'une simple réforme paramétrique.
Non, mais j'aime bien fait d'apporter des solutions, vous savez, je suis assez sensible à ça. Ça signifie que les annonces de ce soir, elles sont exclusivement objectifs budgétaires. La DARES a dit, si on réduit de 20% la durée d'indemnisation, on a 3 milliards d'économies, c'est juste ça.
Individuellement,
alors Guillaume Dard,
individuellement, le chômage, c'est un drame. Collectivement, on voit qu'on tâtonne autour de solutions, j'en ai entendu très intelligentes là, mais sur le fond, est-ce que c'est une assurance? Est-ce que c'est une mutuelle? Est-ce que c'est un impôt? Moi, ce que je comprends, parce qu'en fait, je vous redonne les chiffres, c'est 4%, ça veut dire que si c'est un droit individuel, on devrait vous le donner. Vous avez cotisé directement ou indirectement, maintenant c'est indirectement, tant depuis que vous commencez à travailler. Donc vous avez mis de côté, entre guillemets, une somme de temps. Et si vous êtes amené à percevoir des indemnités supérieures à ça, ça veut dire que vous avez coûté aux autres. Mais c'est le refus. Moi, je viens d'entendre des choses extrêmement intelligentes, mais assez qualitatives. Enfin, il y a eu des chiffres là, sur la DARES, mais et c'est faire injure aux Français de croire qu'ils ne pourraient pas comprendre. Est-ce que vous savez combien vous avez cotisé, Nicolas?
Absolument pas.
Et pourquoi je ne lis pas
tous les mois le montant de la cotisation au chômage.
Si quelqu'un d'extrêmement intelligent et précis et technique ne le sait pas, c'est quand même qu'il y a
parce que j'ai pas fait l'effort de le savoir.
Mais parce qu'on vous le donne pas non plus.
C'est un prélèvement obligatoire.
Par exemple, vous savez que quand vous avez votre feuille d'impôt, on vous dit vous avez le droit à tant de cotisations pour votre retraite, pour les PER. Donc on pourrait vous donner l'accumulation de ce que vous avez gagné. Mais on vous fait croire que c'est un droit individuel, mais on vous le donne pas. En fait, c'est une mutualisation parce que les gens qui sont au chômage, comme ça vient d'être très bien dit, c'est des gens non qualifiés qui, eux, n'ont pas beaucoup cotisé. Donc, en réalité, c'est un choix collectif français. Donc, et l'illusion que ça soit un équilibre entre les partenaires sociaux, ça me semble une illusion, parce qu'en fait, on fait un peu de traficage, on dit ah ben je mets à gauche, je mets à droite.
Moi, dans mon esprit, c'est une assurance, comme une assurance auto. Si vous n'avez pas d'accident, vous avez payé. Mais
c'est effectivement, j'arrive à la conclusion, et je rejoins celle que vous avez donnée, c'est au fond un impôt. Et que c'est l'État qui va décider comment est-ce qu'il accepte et s'il veut qu'il y ait un peu moins de dépenses, il va réduire les dépenses. Et je rentre pas dans ce qu'a très bien démontré Eric, de savoir si c'est bon ou pas bon. On a un problème. Combien il y a de versements sur le chômage? Qu'est-ce qu'on peut payer avec ça?
En tout cas, c'est un prélèvement obligatoire. Pas de problème.
Oui, mais ce n'est pas un impôt. D'accord. C'est pourquoi ce n'est pas un impôt, parce que vous voyez, un impôt, ça vous ouvre pas de droits. C'est pas parce que j'ai payé un impôt que j'ai des droits. Alors que une cotisation chômage, ça m'ouvre des droits. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais travaillé.
Des impôts, j'ai quand même envie d'avoir un peu d'école, un peu de police, un peu de justice.
Oui, mais vous n'avez pas plus de droits que celui qui a pas payé d'impôts. D'accord, celui qui n'a pas payé d'impôts, il a quand même la lumière va quand même s'allumer dans la rue pour lui.
C'est ce qui pose des problèmes en France.
Mais cotisations, chômage,
c'est le ras-le-bol. Si les gens ont le sentiment qu'ils payent beaucoup d'impôts, qu'ils n'ont rien en face.
Non, c'est un sujet. Non, mais je finis. C'est-à-dire que celui qui paye des cotisations, chômage, a le droit au chômage. Celui qui n'a jamais travaillé n'a pas le droit au chômage. Donc, ça, c'est indifférent. Et donc, effectivement, c'est une assurance. Et normalement, cette assurance, elle doit. C'est pour ça que c'est proportionnel à votre salaire. Et que chez nous, ça peut monter très haut. C'est qu'on considère que le rôle de l'assurance chômage, c'est une fois que vous tombez au chômage. On te demande d'avoir qu'un seul objectif, c'est de retourner à l'emploi. Et de pas, vous voyez, si vous avez un droit au chômage qui est faible, vous allez dire, mince, j'ai perdu beaucoup, il faut que d'abord je pense à peut-être déménager parce que mon loyer est trop cher, à changer les enfants d'école parce que c'est trop cher le quartier, et donc, du coup, je réfléchis à autre chose que de retrouver à l'emploi. C'est pour ça qu'on dit, il faut que ça soit généreux, dans un premier temps, que ce soit proportionnel à ton revenu pendant un temps pour que tu te concentres, d'accord, sur ta reprise d'emploi. Et donc, c'est bien une cotisation. Alors après, c'est là où ça devient obligatoire. Et le fait que ce soit obligatoire, contrairement à une assurance voiture, c'est-à-dire qu'une assurance voiture, quand vous n'avez jamais d'accident, à un moment, on vous donne un petit bonus. Oui. On vous dit, tu payes moins. Alors que là, non. C'est-à-dire qu'un cadre qui ne tombe jamais au chômage, admettons, va tout de même le payer, et au même tarif que tout le monde, et même payer même un peu plus cher, parce que, pour certaines raisons, mais qui sont un peu compliquées, en disant...
Y a certains revenus ont des cotisations déplafonnées.
Et y a,
ce qui, à mon avis, est un petit problème, quand même,
Et en plus, on lui met de la dégressivité.
De la dégressivité.
Mais en gros, globalement, c'est là où on te dit, allez, il y a un peu de solidarité quand même là-dedans. C'est-à-dire que, ok, c'est un peu comme si l'assurance voiture, on disait, tu payes pour les mauvais conducteurs.
Il payait pas de cotisation chômage quand c'était individuel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes patron, vous n'en payez pas. Parce que vous savez d'ailleurs que personne va vous indemniser et ça vous donne envie de bosser. Alors, tout le monde n'est pas patron, donc bien entendu que c'est possible. Mais moi, je vous dis, c'est de l'impôt et de la solidarité.
Ah, ok. C'est la solidarité, mais ce n'est pas, il y a la solidarité dedans, mais ce n'est pas l'impôt. Ensuite, vous voyez, il y a quand même eu des travaux académiques pour savoir quelle est la bonne durée d'indemnisation. Oui, ça, il y a même des prix Nobel là-dessus, Layard, Nickel, Jackman. D'accord ? En gros, globalement, ce que nous disent ces prix Nobel, c'est que la durée, il n'y a pas une durée optimale.
Non, mais vous n'avez jamais la bonne réponse.
Oui, mais, elle est quand même intéressante, la réponse. C'est pour ça qu'on leur a donné le prix Nobel, d'ailleurs. C'est que ça dépend de qui vous avez en face de vous. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est très proche du marché du travail, très qualifié, il lui faut une durée assez faible, d'accord, pour lui dire, allez, il va falloir que tu retournes sur le marché du travail, tu as toutes les capacités pour le faire. En revanche, quand tu as quelqu'un qui arrive au chômage et qui est peu qualifié ou qui est dans des qualifications qui n'existeront plus demain, d'accord, et bien là, les prix Nobel nous disent, il faut rallonger la durée, d'accord, parce qu'il faut les retenir au chômage et les former. C'est là, je rejoins Erwan, c'est-à-dire que là, il faut aller vers les dépenses actives et pas que les dépenses passives. Il faut lui dire, tu as le temps parce qu'on va te former, ça va être long à te reformer à un nouveau métier, etc. Et on va te donner en plus les moyens de vivre pendant ces durées-là. Et donc, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Moins tu es qualifié, plus la durée doit être longue et vice-versa.
Eric, c'est admirable, mais dans le fond, je le redis, à titre individuel, le chômage, c'est un drame. À titre collectif, on perçoit bien que dans notre France depuis, disons, 40 ans, pour simplifier, le fait qu'on ait expliqué qu'il fallait réduire tout le temps le travail, eh bien, tout ça fait partie du même phénomène. C'est-à-dire qu'on ne sent pas l'absolue nécessité de travailler dans le pays. C'est pour ça que maintenant, tout le monde répète ce que Nicolas, ce qui est dit sur ce plateau depuis longtemps. Il nous faut 10% d'emploi en plus.
10 points de taux d'emploi, oui.
10 points de taux d'emploi. Et alors, comme vous allez nous mettre le sujet de la semaine des 4 jours, si vous voulez, on croit marcher sur la tête. Alors, on va travailler moins, mais alors il faudrait travailler plus, etc.
Il faut faire travailler plus de monde.
Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que Eric et Erwan ont tellement bien précisé, puis connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, mais moi, je redis, à titre collectif, à titre individuel, le chômage, c'est un drame. À titre collectif, il faut qu'on sente l'incitation de la nécessité de travailler. Et c'est pour ça que je disais, le modèle social... il est très bien, sauf que quand il y a des coups partout et des guerres qui se profilent malheureusement, eh ben il va souffrir horriblement parce qu'on ne pourra pas y faire face puisque ça ne nous a pas échappé qu'il y a un petit débat sur la dette française.
Justement, avant d'évoquer la semaine de 4 jours et peut-être le reste du séminaire gouvernemental, qu'est-ce que vous pensez de la TVA sociale, Eric? C'est Bruno Le Maire qui est devenu son... Alors on est une 44, avant de marquer une pause, mais on continuera. C'est son antienne depuis la tabou au JDD et la sortie du bouquin La Voix Française. 5 points de cotisation sur la TVA, 60 milliards d'euros.
Non, mais c'est alors, en gros, globalement,
parce que là,
toujours,
du coup, on passerait une politique sociale payée par l'impôt.
Alors, ok, il faut savoir pourquoi on le fait, d'accord. Oui, une TVA sociale, ça a un intérêt, pour moi, uniquement pour dévaluer, c'est une dévaluation.
C'est une dévaluation
d'accord. Monétaire. Donc, si vous considérez qu'aujourd'hui, on est en déficit, d'accord, parce qu'on a un euro qui est trop élevé par rapport à notre structure. Il est trop bas pour les Allemands, il est trop élevé pour nous, d'accord. Nous sommes déficitaires. Ok. Et donc, si vous dites, bah ouais, normalement, si j'avais gardé le franc, j'aurais dévalué le franc. Là, je peux plus faire parce que je suis en euros. La TVA sociale, d'accord, peut être un instrument pour dévaluer en monnaie unique et donc essayer de reprendre une partie de ce qu'on a perdu. Et donc, ça veut dire que, normalement, même les Allemands...
On peut le faire qu'une fois.
Eh, alors, non, on peut le faire plusieurs fois, mais il faut le faire en coordination.
Pas aller à 40% de TVA.
Non, mais d'accord. Ok, on va être à un moment... oui, ça dépend jusqu'où on va. Mais vous voyez, normalement, ça devrait être... et c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec Bruno Le Maire, il faut le faire en coordination avec nos partenaires européens. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, est-ce que c'est normal qu'il y ait 8 points d'excédent de la balance courante depuis à peu près 12 ans en Allemagne et des déficits en France? Non, c'est pas normal. On a la même monnaie, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une monnaie sous-évaluée, l'autre qui a une monnaie surévaluée. Donc, normalement, nous, on devrait faire une TVA sociale et les Allemands, une TVA sociale inversée. D'accord, les Allemands devraient normalement baisser la TVA pour relancer la consommation et augmenter leurs cotisations. Et on pourrait trouver des TVA sociales pour réajuster tout cela. Mais les Allemands vont nous dire nein tout de suite. Donc c'est si certain. On fait une TVA sociale pour ça, les Allemands vont faire une TVA sociale de la même manière pour garder. Donc du coup, ça ne sert strictement.
Alors, c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Quand on la raconte en Allemagne, ils trouvent que c'est moral. Et quand on la raconte en France, ils disent qu'il y a un scandale et qu'il faut s'occuper des cigales.
On marque une pause. J'aimerais juste qu'on explique un petit peu de manière... assez presque scolaire en quoi basculer des cotisations vers la TVA, effectivement ça revient à une dévaluation monétaire, sauf que Bruno Le Maire ne l'entend pas ainsi. Pour lui c'est une arme pour augmenter le salaire net. On marque une pause et après on s'intéressera à ce qui reste dans le séminaire. À tout de suite.